Camarades, nous allons maintenant ouvrir le débat. Donc, s'il y a des questions ou des interventions, il suffit de vous signaler en levant la main. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Alors, il y a une main qui se lève là-bas. Ici. Trois. Oui, tout au fond, ouais. Alors, je rappelle aux camarades qui interviendraient au nom d'organisation qu'on leur demande de se limiter à une intervention par organisation et d'être concis, hein, pas plus de 3 minutes. On commence par... Et il y a quelqu'un en haut aussi. Alors, on a 4 questions en bas et une en haut. Vas-y.
Juste après la révolution en 1978, le nouveau régime, il n'a pas su ou pas voulu s'entendre avec l'impérialisme américain. Et dans l'un ou l'autre cas, pour quelle raison ?
On va prendre toutes les questions, hein, et le camarade répondra ensuite. Donc il y avait une main qui se levait tout au fond là-bas. Voilà.
Merci. Bon, en tant que franco-iranien, d'abord je vous remercie d'avoir organisé cette réunion. Ça nous fait chaud au cœur. On a vraiment besoin, et surtout l'exposé était très très bon. Il manquait juste une chose. C'est qu'il fallait dire quand même qu'à la fin de la guerre, l'Iran-Irak, les gouvernements successifs de République islamique ont mis en place des politiques néolibérales d'une brutalité incroyable. Ils ont suivi à la lettre tout ce qui était dit par Fonds monétaire international, à tel point que Strauss-Kahn, qui était à l'époque, à 2010, le président de Fonds monétaire international, a désigné Ben Ali et Ahmadinejad comme ses meilleurs élèves de néolibéralisme dans la région. Ben Ali est parti, Ahmadinejad est toujours là, espérons qu'il va être maître d'or. J'en profite pour vous dire que l'intersyndicale des syndicats français, CGT, CFTT, FSU, Solidaires et UNSA, qui depuis 13 ans organisent des manifestations, des rencontres pour soutenir le mouvement ouvrier en Iran, sont en train d'organiser et une journée d'action le 8 février, ça veut dire mercredi prochain, à 18h devant l'ambassade, en même temps que les autres syndicats à Londres, à Norvège, Suède, Espagne, au Canada, Danemark. C'est une journée transnationale et de solidarité internationale pour soutenir le mouvement Femmes, Liberté en Iran et surtout demander la libération des militants des mouvements ouvriers qui sont tous en prison. Reza Chahabi, son nom a été donné, il a été arrêté avant le commencement de la révolte actuelle, en même temps que toutes les figures connues du mouvement des enseignants qui ont joué un rôle prépondérant à continuer la lutte pendant les 20 dernières années, pratiquement toutes les figures connues des mouvements ouvriers et les enseignants sont en prison. Donc la demande de leur libération est primordiale. C'est ce qui va constituer le slogan principal de ce rassemblement de 8 février à 18h devant l'ambassade de l'Iran. Femme, vie, liberté, libérer les prisonniers politiques et les militants du mouvement ouvrier. Soyez nombreux à être là-bas parce que comme il l'a très très bien expliqué le camarade, il y a un OPA qui est lancé par l'opposition de droite royaliste pour s'accaparer de représentation de ce mouvement en Iran. Ils n'ont aucun, absolument zéro relais en Iran, mais ils essayent de se présenter comme le représentant de la diaspora, que cette fois-ci, contrairement à d'autres mouvements où on était une trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui soutenaient le mouvement et les révoltes, ils sont dans la rue, partout en Europe, en Amérique, au Canada, par vraiment des dizaines, voire centaines de milliers de gens. Ils ont organisé quelque chose à Berlin où les manifestants ont dépassé 100 000, qui était énorme pour la diaspora iranienne. Donc, cet OPA de l'opposition de droite est très important. Il faut le contrer. Il faut vraiment soutenir le mouvement ouvrier. Il faut dire qu'ils ne représentent rien du tout. Leur politique est exactement ce qu'il est en train mettre en place par le régime islamique. La seule différence, c'est qu'eux, ils le font avec l'impérialisme chinois et russe. Et eux, ils vont le faire avec l'impérialisme américain. Ça, c'est très important à souligner. Et votre présence dans ce rassemblement, ça va être bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut soutenir le mouvement ouvrier qui est vraiment la clé de sortir de cette crise, comme ça a été très bien expliqué. Merci beaucoup.
Merci. Merci pour ton intervention. Alors, il restait une intervention là-bas. Vas-y.
Ça marche ? Oui. Merci, camarades, pour cet exposé. Vous avez parlé des conseils ouvriers en 78-79, mais c'était très rapide. Et je voulais dire aux camarades présents dans la salle qu'il y a un livre dans anglo-saxon qui s'appelle « Workers and Revolution in Iran », écrit par Azef Barat, qui retrace les conseils ouvriers en Iran de 79 à 85. Il a fallu cinq années à Roménie pour casser les mouvements, les conseils ouvriers en Iran. Et les conseils ouvriers en Iran ont viré les patrons, ils se sont subordonnés les cadres, ils ont pris le contrôle de la production. Et par exemple, à General Motors, ils ont reconverti la production de voitures en production de bus pour les quartiers populaires iraniens. Donc ça prouvait la force de la révolution ouvrière en Iran. Et je tiens à rappeler que la révolution ouvrière en Iran en 79 n'était pas une révolution islamique, c'est une contre-révolution islamique par rapport à une révolution ouvrière qui aurait pu être victorieuse s'il y avait eu un parti.
Alors, il reste encore une question. La camarade est en train de descendre. Tu veux commencer à répondre ou on attend quelques instants? Elle va arriver. C'est pas le micro là-haut ? Non, c'est pas le micro qui est monté, c'est la camarade qui descend. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant ce temps-là? Ah, voilà, ici. Où est le micro ? Je ne sais pas où il est passé. Alors, si le micro est parti, ils vont se croiser. Alors, il y a une autre question ici.
C'est un tout petit détail. Est-ce que tu serais au courant de ce qui se passe par rapport à l'eau, problème de l'eau en Iran ?
Et voilà, la dernière question au fond à gauche.
Donc en fait, ça a déjà été dit, mais je le redis parce que c'est important. L'intersyndicale donc, qui réunit la CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, appelle à un rassemblement le 8 février à 18h en soutien au peuple iranien. Donc c'est très important d'être présent. Merci.
Merci. Bien, je repasse la parole à Xavier pour répondre.
Oui, par rapport à la première question, si j'ai bien compris, pourquoi le régime mis en place en 78-79, il n'a pas su ou pas voulu s'en prendre à l'impérialisme américain ? À un certain niveau, le camarade, la deuxième question te répond. Hein, toute cette bande-là, meilleur élève du FMI, cette bande-là, c'est des bourgeois, c'est des gens qui veulent... Leur problème n'est pas l'émancipation. Le problème fondamental des islamistes qui étaient derrière Roménie, comme ceux des bourgeois libéraux de l'époque de Mossadegh, c'est que dans le gâteau global des richesses produites par les travailleurs en Iran et dans le monde entier, ils aient une plus grande part. C'est ça qui les motive. Alors, il s'avère que les islamistes de Roménie ont réussi, avec leur méthode particulière, ce que les nationalistes... libéraux ou staliniens n'ont pas su faire parce qu'ils n'ont pas les islamistes ont été capables justement de s'encadrer d'encadrer et de s'appuyer sur la révolte ouvrière, sur la révolte populaire, mais pour la canaliser, pour la réprimer, pour l'arrêter, pour arriver au pouvoir. Alors voilà, fondamentalement, ce sont des gens qui sont des exploiteurs et ce sont des gens qui représentent les intérêts de la bourgeoisie de leur pays. Voilà. Et toute leur politique au pouvoir, là, c'est le montre et l'illustre. Bon. Alors justement, je fais le lien. En 79, y a-t-il eu une révolution ouvrière suivie d'une contre-révolution ? Ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est qu'il y a eu une mobilisation, un soulèvement ouvrier. Effectivement, il y a une question sur les conseils ouvriers. La classe ouvrière, elle est capable de créer beaucoup de choses. La classe ouvrière... l'exemple de l'Iran, aujourd'hui, en 79, dans les années qui ont suivi, ça confirme la capacité des travailleurs parce qu'ils sont concentrés, parce que c'est eux qui font marcher la machine économique, parce que c'est eux qui montent les échafaudages, pour reprendre l'expression des gars du pétrole, là. Ils sont capables de beaucoup. Ils sont même capables de bâtir des syndicats, y compris de faire jaillir des militants et des militantes extrêmement courageux, comme ceux qui sont en prison, qui sont réprimés, que j'ai cités, que le camarade a recité. ça, ça prouve la capacité. Mais il y a un cran qui manque. Les bolcheviks, en 1917, en Russie, ils sont appuyés sur les soviets. Les soviets sans les bolcheviks, il n'y aurait pas eu octobre 17. Les soviets sans une politique disant « tous les autres, ce sont nos ennemis, nos adversaires, et ils ne veulent rien changer à l'ordre social, ils ne veulent pas faire la paix, ils ne veulent pas donner la terre aux paysans », il n'y aurait pas eu. Ben, en Iran, il n'y a pas eu ça, à aucun moment. Et c'est en ça qu'il n'y a pas eu une révolution ouvrière. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et le reste, c'est se payer de mots. Oui, la classe ouvrière, elle est capable de faire jaillir des conseils ouvriers. Elle est capable d'aller très loin. Mais il y a une étape supplémentaire. Il faut abattre un appareil d'État. Roménie, il a gardé le contrôle de l'appareil d'État. Il s'est entendu, y compris avec l'armée, même en partie l'armée du Shah. Et il s'est donné les moyens de bâtir une armée. Et j'insiste, moi, j'ai expliqué que c'est dans les mois qui ont suivi, c'est dans l'année 79 que ça s'est joué. Ça ne s'est pas joué en 81 et dans les années qui ont suivi, comme le disent un certain nombre d'anciens qui ont vécu ça. Ça s'est joué dans les premières semaines, parce que c'est dans les premières semaines qu'il y avait le pouvoir. Alors j'ignore pour ma part quel type de bus les ouvriers des conseils ont construit en Iran en 80, 81, 82. Il est possible qu'ils aient remis. C'était le bordel. Plein de directeurs étaient partis. Mais ils n'avaient pas le pouvoir, ces travailleurs-là. Le pouvoir, c'est les islamistes qu'il avait. C'est les Basidji, c'est les Pasdaran. Absolument, mais ça, je vais y arriver. Ok, attends, tu vas me laisser terminer. Tu vas me laisser terminer. Ça, il faut l'avoir en tête. Ok. Alors, ça rejoint l'autre question. Je vais terminer là-dessus, parce qu'on ne va pas refaire quand même un CLT entier. Mais bien sûr que c'est l'impérialisme américain. Bien sûr que c'est l'impérialisme qu'il faut abattre. Mais l'impérialisme, il ne pourra pas être abattu. J'ai insisté sur un point. La classe ouvrière, elle est mondiale. Nous, ce qui se passe en Iran, c'est notre combat. Les travailleurs, ils ne sont pas iraniens, européens, américains, irakiens ou quoi. C'est la même classe ouvrière qui bosse pour les mêmes Total, les mêmes Eni. Bon. Et non seulement j'ai commencé en disant que toute cette bande d'islamistes ne voulait évidemment pas renverser l'impérialisme, ils en sont complices. Je veux dire, ils ont bâti en Irak voisin une dictature, ils ont collaboré. Mais même s'ils avaient voulu s'affranchir de cette pression impérialiste et la combattre, comment on la combat, la pression impérialiste? Pas par la guerre, pas par la guerre militaire. La seule façon de la faire tomber, cette dictature, c'est s'appuyer sur les combats des prolétaires du monde entier, des métropoles industrielles, des pays voisins, de s'adresser à eux. Or, c'est tout le contraire, évidemment, de ce qu'ils voulaient. Et c'est d'ailleurs aussi les limites des autres. C'est les limites des maoïstes, c'est les limites des staliniens qui en ont peur de ces travailleurs qui s'insurgent, qui ne veulent pas s'appuyer dessus. Eh bien, nous, notre combat, ce qu'on défend comme politique, et c'est là, je vais peut-être conclure là-dessus, oui, c'est tout à fait normal, important d'aller manifester aux côtés des militants syndicalistes pour réclamer la libération, etc. Évidemment que c'est important, mais si on en reste sur ce terrain syndicaliste et que c'est pas, le mouvement ouvrier en soi, ça ne suffit pas. Il faut un mouvement ouvrier, politisé, communiste, révolutionnaire, qui ait comme objectif, non pas, même en Iran dans la dictature, les travailleurs, ce qu'ils veulent, c'est un salaire, c'est une retraite, etc. Mais ils ne l'auront pas, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est encore plus vrai en Iran. Enfin, c'est aussi vrai en Iran qu'ici. Si on veut avoir une retraite, il faut foutre en l'air ce système. Et s'il n'y a pas des militants qui défendent ça, ça ne se fera ni en Iran, ni ici.
Bien, camarades, cette réunion du Cercle Léon Trotsky se termine. Donc, je vous donne rendez-vous dans cette même salle pour la prochaine réunion qui aura lieu le vendredi 10 mars et dont le sujet sera les relations entre la Chine et l'impérialisme. Donc, vendredi 10 mars. Mais d'ici là, nous aurons évidemment d'autres occasions de nous voir, à commencer par les deux manifestations prévues la semaine prochaine. Et pour Paris, ce sera à 14h à Opéra mardi et à 13h à République samedi. Voilà.